Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage avec un premier invité ce soir à 18h20 qui va nous aider à comprendre pourquoi le gouvernement s'est encore pris les pieds dans les méandres de la bureaucratie avec cette histoire d'attestation de sortie finalement annulée. Cet invité, c'est Arnaud Benedetti, professeur de com à Paris-Sorbonne et auteur de l'essai « Le coup de com permanent ». 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Pourra-t-on se passer du vaccin russe Spoutnik, comme le dit le commissaire européen Thierry Breton. Pas si sûr, on en débattra. 19h15, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson. Faut-il célébrer le bicentenaire de Napoléon? Pas si sûr également, nous dira-t-il. Et puis à 19h20, le grand débat du Club des idées. Le capitalisme à visage humain est-il possible? On se posera la question avec nos invités. Après l'éviction du patron de Danone, peut-on diriger une multinationale et faire du social et du tout écolo? On en débattra avec nos invités, et notamment un patron qui lui y croit, cette idée qu'on peut faire des profits et appliquer une politique éthique et sociale. C'est le patron de la Maïf, Pascal Demurger. Le journal d'abord avec Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Julien.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination pour pouvoir être capable d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés pour vacciner massivement les Français.
Des vaccinodromes pour accélérer la vaccination. Après s'y être opposé, Olivier Véran annonce le déploiement de 35 grands centres à partir du mois d'avril.
Le ministre de la Santé réaffirme l'objectif du gouvernement. 10 millions de Français vaccinés à la mi-avril. Les détails dans quelques secondes avec Anne Le Gall.
Le gouvernement pas épargné par le Covid, même si l'état de santé d'Elisabeth Borne est en voie d'amélioration. La ministre du Travail est hospitalisée après avoir été déclarée positive. Autre ministre infecté, celle de la Culture. Roselyne Bachelot a dû se mettre à l'isolement.
Le procès du saccage de l'Arc de Triomphe, c'était en décembre 2018, en marge de la manifestation des Gilets jaunes. 10 personnes sur le banc des accusés, mais pas les principaux responsables qui n'ont jamais été retrouvés.
Canal+ a-t-elle supprimé des passages d'un documentaire sur le sexisme dans le journalisme sportif? La chaîne aurait coupé des extraits compromettants pour l'un de ses chroniqueurs vedettes, Pierre Ménès.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous connaissez l'adage, ces citations continuent de nous accompagner. La France s'apprête à rendre hommage à Jean de La Fontaine, dont on va fêter le 400e anniversaire de sa naissance.
La Bourse de Paris termine en baisse de 0,49% à 5 968 points.
Et puis la météo. Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Julien.
Une belle journée ensoleillée au programme demain.
Oui, ça commence à ressembler au printemps, ça y est. Mais attention, il va faire frais avec des températures toujours en dessous des normales de saison. La journée, elle, débute avec pas mal de brouillard dans le ciel. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y était farouchement opposé, mais Olivier Véran a fini par se rendre à l'évidence. Le ministre a donc dit oui au vaccinodrome.
Oui, il annonce la création de 35 centres géants d'ici avril. L'armée et les pompiers seront d'ailleurs chargés de leur déploiement. Alors, il en existait déjà à Marseille, Toulouse ou encore à Nice, mais il s'agissait d'initiatives locales. Cette fois, le gouvernement franchit le cap, d'autant qu'il veut faire vite parce que les choses sont là, comme l'explique le ministre.
Aujourd'hui, notre planning, vous le connaissez, c'est 10 millions de primo-vaccinations à la mi-avril. Si on n'a pas de pépins du côté des laboratoires, on a toutes les chances de pouvoir tenir cet objectif. Et on ira encore plus loin et encore plus vite quand les livraisons augmenteront dans les semaines qui suivront. Et donc le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination. Vous pouvez les appeler vaccinodromes ou méga-centres, quel que soit le nom. Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l'État, l'assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi pour pouvoir être capable justement d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés à partir du mois d'avril pour vacciner massivement les Français.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'occasion de son déplacement ce matin dans l'Essonne, vous l'avez entendu, l'objectif c'est d'être capable d'utiliser toutes les doses livrées à partir du mois d'avril. Du coup, Anne Le Gall, il va falloir que la logistique suive.
Exactement, car nous allons avoir une montée en puissance des livraisons de Pfizer et Johnson & Johnson. La France devrait ainsi recevoir 17 millions de doses de vaccins en mai et 27 millions en juin. C'est plus du triple des livraisons de ce mois-ci. Concrètement, pour vacciner déjà dans un premier temps 10 millions de Français d'ici le 15 avril, c'est l'objectif fixé par le gouvernement, il faudra que les vaccinateurs soient en mesure d'injecter 210 000 doses par jour dans les mois qui viennent. C'est faisable, car rien que vendredi, au moment de la reprise de la campagne avec AstraZeneca, 250 000 doses ont été injectées par les généralistes et dans les centres. Puis en mai et juin, la cadence va encore s'accélérer. À partir de mai, nous aurons normalement les doses pour vacciner 330 000 Français par jour. Beaucoup de ces vaccinations auront toujours lieu dans des centres, car les vaccins Moderna et surtout Pfizer représenteront alors près de 60% des doses reçues. Or, ce sont ces vaccins qui se conservent à moins 20 et moins 70 degrés.
Anne Le Gall, merci, spécialiste santé d'Europe 1. Deux ministres ont donc été contaminés par le virus Covid.
Roselyne Bachelot est à l'isolement depuis samedi. Quant à Elisabeth Borne, on a appris à la mi-journée qu'elle était hospitalisée, mais son ministère indique que son état est en voie d'amélioration. Hélène Terzian.
Effectivement, d'après son entourage, la ministre de 59 ans va mieux. Elle est en réalité à l'hôpital depuis la fin de semaine dernière, un hôpital de région parisienne. Mais les médecins sont plutôt rassurants. Son ministère indique que la continuité des dossiers est assurée. Elisabeth Borne hospitalisée donc. Et ce que l'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas le premier membre du gouvernement à être hospitalisé après avoir contracté le virus. En septembre dernier, Bruno Le Maire a lui aussi été placé sous surveillance dans un hôpital militaire. Le ministre de l'économie avait d'ailleurs confié par la suite, on s'en rappelle, à quel point le virus, je cite, avait été violent. À ce jour, ce sont en tout cas 7 personnalités de l'exécutif qui ont été infectées. Roselyne Bachelot, vous l'avez dit, a été déclarée positive samedi. Il y a un an, c'est son prédécesseur, Franck Riester, aujourd'hui ministre chargé du commerce extérieur, qui était contaminé, tout comme l'ex-secrétaire d'État Brune Poirson, puis la ministre Emmanuelle Wargon. Un virus qui n'a pas épargné le chef de l'État. Emmanuel Macron, positif au Covid, donnait de ses nouvelles en se filmant avec son smartphone depuis la résidence de la Lanterne.
Bien, merci Hélène. Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Pendant ce temps-là, la chancelière allemande, elle, tente de convaincre des bienfaits du couvre-feu.
La réunion avec les 16 présidents de région tourne autour de la même question. Comment freiner une épidémie qui s'emballe sous l'effet du variant britannique? Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, l'Allemagne envisage un couvre-feu national, mesure très critiquée alors que le pays se montre de plus en plus rétif aux mesures restrictives.
Oui, l'Europe justement qui a décidément du mal à jouer collectif et parler d'une seule voix. La Hongrie approuve ainsi un deuxième vaccin chinois sans demander l'avis donc du régulateur européen.
Ouais, les autorités sanitaires hongroises valident le Convidecia, sérum développé par le laboratoire chinois CanSino Biologics. Ils avaient déjà autorisé celui de Sinopharm, autre firme chinoise.
18h06, on en vient à ce procès. Souvenez-vous, c'était le 1er décembre 2018. Des gilets jaunes déclenchent l'acte 3 de leur mouvement. Il va se conclure par le saccage de l'Arc de Triomphe. Eh bien, 10 personnes en répondent aujourd'hui devant la justice.
Ouais, les images du pillage de l'Arc de Triomphe avaient fait le tour du monde. Mobilier détruit ou volé, statues et œuvres d'art endommagées. L'heure des comptes a donc sonné. Mais le problème, Justin Morin, c'est que les prévenus ne sont pas les principaux responsables.
Oui, et on s'en est rapidement rendu compte lors de leur prise de parole. Le premier livreur en région parisienne n'a rien volé. Il s'est retrouvé ce jour-là dans l'escalier de l'Arc de Triomphe, par instinct de survie, dit-il, pour se protéger des gaz lacrymogènes. Pour ça, il ne risque qu'une amende. Le deuxième, un Breton de 25 ans, est arrivé sur place après les faits. Il est aussi entré dans le monument pour se protéger. Là, il découvre le saccage de la boutique de souvenirs. Quand il est interpellé, la police retrouve sur lui 4 cartes postales. C'est pour ça qu'il comparé pour vol. La présidente reconnaît que 4 cartes postales, ce n'est pas l'affaire du siècle. Le troisième, 18 ans à l'époque des faits, a été filmé en train de frapper une porte avec un extincteur. Il est jeune, parle peu et peine à expliquer son geste. Voilà où nous en sommes, l'audience se poursuit, mais on est bien loin de la violence et de la désolation aperçue sur une vidéo projetée en introduction. On y voit l'intérieur de l'Arc de Triomphe, tout est dévasté, les œuvres d'art, le mobilier, jusqu'aux toilettes. Des tags partout, une dizaine d'hommes pillent les bureaux, 1 million d'euros de dégâts. Le contraste est saisissant, mais les juges d'instruction l'ont avoué eux-mêmes à la fin de leur enquête. Les instigateurs, voire les principaux auteurs des faits, ne sont pas là. Ils n'ont jamais été identifiés.
Justin Morin au tribunal correctionnel de Paris. La préfecture maritime de l'Atlantique parle d'un résultat exceptionnel. Plus de 6 tonnes de cocaïne ont été saisies à bord d'un cargo dans le golfe de Guinée. Opération de grande ampleur menée conjointement avec les polices néerlandaises et brésiliennes.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes, on parlera de Canal. Canal+, au cœur d'une polémique pour avoir visiblement coupé un documentaire sur le sexisme.
Et puis, ces fables sont autant de leçons de vie. Le monde de l'édition célèbre la naissance de Jean de La Fontaine. C'était il y a 400 ans.
À tout de suite. La suite du journal 18h10 avec Christophe Lamarre. On parle donc de cette polémique dont la chaîne Canal+ se serait sans doute bien passée. Elle est accusée d'avoir coupé quelques scènes d'un documentaire choc sur le sexisme dans le sport.
Il s'agit d'un reportage sur les femmes journalistes sportives. Difficile parfois de faire ce métier et de se faire accepter lorsque l'on est une femme dans un milieu encore très masculin. Il est signé de Marie Portolano, ex-Canal+. Et le problème, Simon Rubin, c'est que la chaîne a coupé des passages jugés gênants pour son chroniqueur star.
Exactement. Dans le documentaire, Pierre Ménès est mis face à Isabelle Moreau, journaliste de Canal+, face à face entre un agresseur sexuel et sa victime, puisque plusieurs années auparavant, Pierre Ménès, chroniqueur foot sur Canal+, avait embrassé de force Isabelle Moreau en pleine émission. Une séquence diffusée à la télé devant un public, des chroniqueurs et invités hilar. Une séquence qui va dès lors suivre et traumatiser la journaliste. Et donc dans l'extrait qui a été coupé, mais que plusieurs journalistes ont pu voir, Isabelle Moreau fait face à un Pierre Ménès au discours qui aurait été tellement accablant pour lui-même que la chaîne aurait décidé de le faire sauter. Alors pour sa part, Canal+ explique qu'il s'agit d'un choix éditorial. Tous les hommes ont été retirés du montage final, qu'il s'agisse de Pierre Ménès ou d'autres journalistes, pour laisser les femmes s'exprimer. Ça, c'est la version officielle. D'autres voix estiment que la direction de Canal a surtout voulu protéger sa vedette. Il faut par ailleurs préciser que Pierre Ménès est un habitué des agressions, qu'elles soient filmées ou non, puisque d'autres témoignages et images d'attouchements ou baisers forcés refont surface en ce moment. Enfin, ce documentaire pointe un problème systémique qui dépasse largement la seule chaîne Canal+ et qui concerne tous les médias sans aucune exception.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Le football avec le PSG en tête de la Ligue 1 après son succès 4-2 hier soir face à Lyon. Et puis en tennis, pas de changement au sommet de la hiérarchie. Novak Djokovic toujours numéro 1 mondial devant Daniil Medvedev et Rafael Nadal. Chez les femmes, Ashley Barty est toujours numéro 1 devant Naomi Osaka et Simona Halep.
De la culture, de la littérature. Il est né il y a bientôt 400 ans. Ses fables sont autant de leçons de vie. C'est aussi l'occasion de redécouvrir un grand poète. J'ai nommé Jean de La Fontaine.
Et le monde de l'édition commence déjà à lui rendre hommage et il ne pouvait pas passer à côté de son œuvre majeure. Eh bien, les fables, Nicolas Carreau.
Charles Perrault disait de La Fontaine qu'il plaisait à tout le monde, aux enjoués, aux sérieux, tant aux vieillards qu'aux enfants. C'est peut-être le secret de sa longévité. Tout le monde apprend et connaît encore quelques-unes de ses fables. Il en a publié plus de 240. Maître Corbeau sur un arbre perché, Julien. La fourmi, le lion et le rat, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Les plus petits, justement, qui adorent et comprennent la morale des fables. Au rayon jeunesse, Alexandre Jardin propose les fables de La Fontaine Dynamité, une réinvention des histoires, mais illustrée. France Télévisions diffusera des lectures des 241 fables lues par des comédiens, Zabou Bretman, Jean-Michel Ribe ou Elise Moon. De nombreuses expositions sont prévues un peu partout et la Pléiade publie le 15 avril prochain un tirage spécial consacré aux fabulistes. Moralité, La Fontaine est immortel, il nous accompagne toute la vie. On a presque l'impression de le connaître personnellement, car comme il l'écrit dans Les Frelons et les Mouches à miel, à l'œuvre, on connaît l'artisan.
Oui, ça je l'avais vu, je l'avais une autre, mais je l'ai copiée.
C'est joli.
Je vais quand même, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-là, celle que vous venez de dire, mais il y a aussi « On hasarde de perdre en voulant trop gagner ». Jean de La Fontaine, toujours aussi.
J'y vais aussi, alors ma favorite, « Rien ne sert de courir ». Il faut partir à point, le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Merci beaucoup pour cette date anniversaire et ces extraits, Nicolas Carreau. C'était le journal de Christophe Lamarre. Alors, Anissa Haddadi, quelle est votre fable de La Fontaine préférée?
Oh bah toutes, hein, toutes, les plus petits. Moi je fais partie des plus petits, hein, vous savez, j'ai pas grandi encore.
Le temps
encore,
c'est comme le lièvre et la tortue.
Rien ne sert de quoi.
Il faut partir à point. Et bien demain, on va partir à point avec le grand soleil qui s'annonce.
C'est ça, le printemps arrive avec la bonne date. Mais attention, en avril, ne te découvre pas d'un fil, et ça, c'est pas La Fontaine, et on n'est pas encore en avril.
Mais on connaît l'adage aussi.
Il va pas falloir se découvrir demain, puisqu'effectivement, il va faire frais. Alors demain, la journée va commencer avec pas mal de nuages bas dans les Ardennes, les Hauts-de-France, la Bretagne, le Val-de-Saône, la vallée du Rhône, le Massif central, le Pays basque. Dans toutes ces régions, pas mal de brouillard demain matin. À la mi-journée, ces brouillards vont se dissiper pour laisser place à un franc soleil sur tout le pays. Il va faire vraiment beau demain. Nous aurons quelques nuages qui vont s'accrocher du côté des frontières du Benelux. Mais partout ailleurs, c'est très beau. Et dans le sud, autre bonne nouvelle, le Mistral et la Tramontane s'essoufflent. Les températures matinales, elles sont froides. Moins 3 à Nevers, moins 2 à Aurillac, moins 1 à Nancy et Limoges, 3 degrés à Paris et Lyon, 9 à Perpignan. Puis dans l'après-midi, c'est stationnaire avec 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 12 à Strasbourg, 14 à Rennes et Paris, 17 à Marseille et 18 à Nîmes. C'est frais pour la saison, mais ça va remonter au fil des jours.
Mais c'est pas mal quand même. On prend. Merci beaucoup Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour un nouveau Point sur le Temps.
Europe 1, Julien Bugier.
18h15, restez avec nous dans quelques secondes. Le gouvernement a-t-il perdu le sens de la com? Simple, utile, efficace? On posera la question à notre invité Arnaud Benedetti. Il est prof à Paris-Sorbonne et auteur du livre très remarqué « Le coup de com permanent ». À tout de suite. Et notre invité ce soir à 18h18, il va tenter de nous éclairer sur la perception qu'ont les Français de toutes ces annonces de confinement et des mesures qui l'accompagnent parfois, c'est vrai, ubuesque, et notamment cette fameuse affaire qui a viré au psychodrame d'attestation de sortie ce week-end. Bonsoir Arnaud Benedetti.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir en direct. Vous êtes donc professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et auteur de l'essai très remarqué à l'époque, Le coup de com' permanent, sorti aux éditions du CERF. Comment vous expliquez, vous d'abord, que des hauts fonctionnaires, qui ont la tête bien faite a priori, en soient arrivés à pondre cette fameuse attestation de 2 pages, avec à l'intérieur plus de 15 points à cocher pour simplement permettre aux gens de sortir chez eux, alors que dans le même temps, le gouvernement nous avait dit, vous allez voir, c'est très simple.
Oui, c'est une énigme, d'autant plus qu'il y avait déjà eu des ratés précédents qui avaient montré que parfois l'administration semblait en roue libre et assez déconnecté même du politique. Et le vrai sujet, c'est de savoir finalement si le politique a pris le pouvoir sur son administration et comment une telle attestation a pu franchir, j'allais dire, les différentes strates de l'appareil d'État pour être à un moment donné validée par le pouvoir politique qui est très vite revenu, bien évidemment, sur cette attestation.
Parce qu'il y a un an, on aurait pu comprendre qu'on se retrouve dans cette situation. On est dans une situation inédite, le Covid explose, c'est une maladie, un virus qu'on ne maîtrise pas encore. Mais là, on est un an après et on arrive encore à des folies administratives comme ce qu'on a connu ce week-end.
La réalité, c'est que vraisemblablement, la conférence de presse tenue par le Premier ministre et le ministre de la Santé a laissé tout de suite libre cours à des interprétations diverses et variées et une certaine forme d'incompréhension. Et on peut penser que l'administration, dans son souci parfois de bien faire et du détail, a voulu produire un texte qui réponde à toutes les questions que voulaient se poser, que se posaient les Françaises et les Français suite aux annonces du Premier ministre et de son ministre de la Santé. Oui. Mais évidemment, le résultat de l'action n'a pas correspondu à l'intention des rédacteurs.
Arnaud Benedetti, c'est quand même symptomatique. On ne va pas se mentir, d'un mal français, suradministré, surnormé, qui nous empêche d'avancer d'une certaine manière. C'est le cas sur la vaccination, c'est le cas sur la gestion. Un exemple, les autotests par exemple. Il y a 48 heures, on nous annonçait qu'ils seraient bientôt disponibles, et en pharmacie, et en supermarché. On apprend que Carrefour en précommande 1 million, et puis finalement ce week-end, retournement de situation, non, les autotests ne seront pas disponibles en supermarché parce que c'est considéré comme des médicaments, et donc ça doit être réservé aux pharmacies. Parfois on a l'impression qu'en France on marche sur la tête.
Le vrai sujet, c'est que plus l'État apparaît dans l'incapacité de répondre aux problèmes d'infrastructure, aux problèmes de logistique, aux problèmes d'organisation, plus il a cette tendance à vouloir réglementer, régenter la vie quotidienne des Français dans la traversée particulièrement difficile de cette crise. C'est un vrai mal français et c'est un vieux mal français. Vous savez, vous relisez, alors dans des conditions beaucoup plus dramatiques, vous relisez Marc Bloch dans L'étrange défaite, il montre bien évidemment que l'on retrouve des mots qui sont très similaires à ceux que nous traversons. L'absence de coordination, l'absence d'organisation, le défaut d'infrastructure, l'incapacité à faire circuler l'information à l'intérieur des différentes strates de l'État. Autant de mots que l'administration française semble reproduire dans cette situation tout à fait particulière que nous sommes en train d'affronter.
D'ailleurs, vous faites une analyse fort intéressante. Vous dites « un pouvoir affaibli est un pouvoir intrusif ». En somme, c'est parce que l'État n'arrive pas à imposer le sentiment qu'il gère la situation, qu'il veut tout contrôler.
Oui, c'est une constante dans l'histoire. Finalement, les pouvoirs qui sont les plus intrusifs sont souvent les pouvoirs les plus faibles parce qu'incapables de répondre aux vraies préoccupations qu'exige une situation, ils essayent de répondre à cette situation par un luxe de détails dans la gestion de la vie quotidienne. Et c'est bien ce sentiment qui aujourd'hui se dégage dans une partie de l'opinion publique qui considère que les vraies réponses dont nous avons besoin, c'est-à-dire par exemple les lits d'hôpitaux, les vaccins ne sont pas au rendez-vous, mais que par contre, on fait peser des contraintes sur la vie sociale, sur la vie économique, parce que tout simplement, l'État n'est pas en mesure d'apporter les vraies réponses.
Vous faites d'ailleurs un parallèle avec certaines croyances et le culte de la religion. Vous dites tout est normé aujourd'hui, la communication covidienne a désormais ça. La liturgie, ce sont les points presse, sa sémantique sacrale, ce sont les gestes barrières, par exemple, et sa promesse eschatologique, c'est la sortie au bout du bout, l'espérance de la sortie de l'épidémie. Vous êtes un pro de la com et votre essai sur la communication d'Emmanuel Macron, président de la République, le coup de com permanent avait connu un retentissement fort intéressant. Quelle serait aujourd'hui la bonne com, la communication adaptée à la situation ?
C'est extrêmement difficile de communiquer quand finalement vous n'avez pas les moyens de votre action. C'est bien le problème, c'est-à-dire qu'on investit la communication d'une sorte de pouvoir magique qui serait susceptible de transformer la situation. La réalité, c'est que la communication doit s'adapter à la vérité de la situation. C'est-à-dire que trop souvent, la perception que nous avons de la parole publique, qu'il s'agisse d'ailleurs de cet exécutif comme d'autres exécutifs par le passé, mais peut-être encore plus aujourd'hui du fait de la situation que nous devons affronter, c'est que cet exécutif ne dirait pas la vérité. J'emploie un conditionnel, en l'occurrence, de précaution. La réalité, c'est que quand on regarde, par exemple, la dernière conférence de presse du Premier ministre et d'Olivier Véran, on a l'impression qu'ils sont là pour nous raconter une autre histoire. Vous savez, il y avait un conseiller de George Bush Junior, Karl Rove, qui appelait ça la stratégie de Scheherazade. C'est-à-dire que quand vous êtes mort politiquement, c'est ce qu'il disait, il faut que vous soyez en mesure de faire diversion en racontant une autre histoire. Et finalement, quand on regarde ce qu'a proposé en termes de dispositif le Premier ministre, cette fameuse baseline du freiner sans enfermer, c'était d'essayer de trouver finalement une innovation qui permette quelque part d'attirer l'attention et peut-être aussi d'effacer tout ce qui n'allait pas.
Vous n'êtes pas sondeur, mais vous avez un regard, vous êtes un observateur. Qu'est-ce qui en reste dans la tête des Français de tout ça, de cette séquence-là ?
Vous savez, depuis le début, ce qui reste depuis le début de cette crise, dans la tête des Français, et les sondages le montrent, c'est une espèce d'incompréhension et de très grande confusion. Il y a quelque chose qui pèse, là aussi, depuis la genèse de cette pandémie, c'est la polémique sur les masques. La polémique sur les masques, c'est un peu le péché originel ou le sparadrap, vous savez, du capitaine Haddock, qui continue à coller à la peau de la parole publique. Et depuis, en effet, on a le sentiment que les pouvoirs publics sont toujours en train d'essayer de rattraper le retard de crédit qu'ils ont finalement engrangé dans cette communication, qui a été une communication ratée, en tout cas au moins au départ.
C'est compliqué de trouver le bon équilibre entre le devoir de transparence et puis la gestion au quotidien de cette crise dont le maître des horloges, comme l'a admis d'ailleurs lui-même le président de la République, c'est le virus. Ça n'est pas le temps politique, c'est le virus.
Oui, mais justement, tout l'enjeu de la communication, c'est aussi de montrer qu'on est en capacité de maîtriser les événements, de ne pas être dominé.
Vous avez le sentiment que le gouvernement improvise, là ?
La réalité, c'est qu'en tout cas, c'est le sentiment qu'il donne au plus grand nombre, aux Françaises et aux Français. C'est toujours d'avoir une sorte de temps de retard dans la gestion de la crise. Alors, il a des éléments pour contrebalancer cette impression. C'est très souvent cette référence aux situations étrangères, en se comparant, en disant « Regardez, ce qui se passe ailleurs, finalement, permet de relativiser la situation française. » Sauf qu'en France, nous avons une conception de l'État qui est un État tout-puissant et qui, sur des missions comme celle notamment du sanitaire, où on considérait qu'il y avait une excellence française dans ce domaine-là, il y a une exigence de l'opinion publique qui fait qu'on est certainement beaucoup plus sévère avec l'action du gouvernement que dans d'autres pays où on relativise parfois.
Rassurez-moi pour terminer, Arnaud Benedetti, vous avez encore foi dans la parole publique, dans la parole politique et l'action qui va avec.
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais la parole publique doit être toujours basée sur la vérité et ensuite sur une action qui soit conforme à cette parole.
Bien, merci infiniment pour cet échange, Arnaud Benedetti, prof donc associé à l'Université Paris-Sorbonne.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, restez avec nous dans quelques secondes. Les grandes voix, le débat des grandes voix, le rappel des titres. On parlera notamment de la France et de l'Europe. Peuvent-ils se passer, tiens, comme l'a laissé entendre le commissaire européen Thierry Breton, du fameux vaccin russe Sputnik ? Il a dit ça hier soir. Eh bien, rien n'est moins sûr. À tout de suite. Le rappel des titres, 18h30 avec Christophe Lamarre.
Le ministre de la Santé annonce le déploiement d'au moins 35 vaccinodromes à partir du mois d'avril. Ces centres de vaccination seront gérés par l'armée et les pompiers. L'exécutif veut pouvoir utiliser tous les vaccins livrables dans 15 jours et tenir son objectif de 10 millions de premières doses injectées à la mi-avril. 9 personnes interpellées après le carnaval sauvage à Marseille qui a réuni environ 6500 personnes. Il y aura des comparutions immédiates dès demain, affirme le ministre de l'Intérieur. La ville annonce de son côté qu'elle va porter plainte après les dégradations commises sur du mobilier urbain. Le préjudice est estimé à 100 000 euros. Et puis, vers un report de Paris-Roubaix, la classique cycliste qui doit se tenir le 11 avril pourrait être décalée, affirme le préfet des Hauts-de-France, même si pour l'instant, aucune décision ferme n'a été prise.
Merci Christophe, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le journal. La météo à Nice avec un soleil qui va s'imposer demain, un peu de fraîcheur mais du soleil.
Oui, alors les températures, vous parliez de fraîcheur, elles restent en dessous des moyennes de saison demain, hein, avec pas mal de gelées matinales, notamment dans les terres, sur l'Auvergne, on aura moins 3 degrés à Nevers, dans le centre, l'est, et beaucoup de régions sont concernées par ces gelées matinales, et puis 2 à 8 degrés partout ailleurs. Dans l'après-midi, eh bien on va gagner allez, 1 à 2 degrés, 11 degrés à Dunkerque, 13 à Brest, 14 à Paris et Clermont-Ferrand, 15 à Lyon, 17 à Marseille et Montpellier, et 18 à Mont-de-Marsan. Mais c'est encore frais. Demain, après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil s'impose, vous le disiez, Julien, partout. Quelques petits nuages s'accrochent sur les frontières du nord-est. Mais dans l'ensemble, c'est une belle journée avec une très belle amélioration pour la journée de demain.
Et bien voilà une bonne nouvelle. Merci Anissa. On vous retrouve tout à l'heure également à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Édouard Lecerf, directeur général adjoint du groupe BVA. Bonsoir Édouard.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir dans les grandes voix. Et Nathalie Moret. Bonsoir Nathalie, journaliste politique au bureau parisien du groupe de presse régionale Ebra Presse.
Bonsoir.
Alors on commence, si vous le voulez bien, par ce nouveau changement de pied du gouvernement qui finalement se convertit à la vaccination de masse avec l'installation de fameux vaccinodrones. 100 à 200 grands centres à terme devraient voir le jour. 35 gérés par l'armée et par les pompiers, avec l'objectif, nous dit-on, d'y vacciner 1000 à 2000 personnes par jour, avec le soutien de l'armée, c'est important, qui serait donc mobilisé pour l'occasion. On écoute à ce propos Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement.
Oui, je crois qu'elle est également impliquée, oui. Elle sait faire, elle a une logistique, oui. elle sait vacciner et elle participera de ces activités. Encore une fois, plus il y a de corps professionnels, de compétences qui peuvent s'ajouter et vacciner, mieux c'est.
Voilà, Nathalie Moret, donc le gouvernement, une fois de plus, change de pied, alors pour la bonne cause, on va dire, hein, avec un symbole fort de cette conversion au vaccinodrone. Le Stade de France sera réquisitionné, un recrutement flash est d'ailleurs à l'étude, avec l'embauche de 100 jeunes pour organiser cette vaccination. On voit qu'on est en train de changer de braquet quand même, hein.
Oui, c'était un petit peu obligé, parce que déjà, on sentait depuis quelques jours, si vous voulez, qu'il y avait une espèce de tension au sein de l'exécutif, quand Olivier Véran dit « attention, la vague monte », et qu'on voit bien que la seule façon de faire face à ce virus, c'est la vaccination. On se dit que si on ne change pas de braquet, on n'arrivera jamais à remplir les objectifs du gouvernement, qui sont quand même de 10 millions de vaccinés mi-avril. Donc pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions, il y a effectivement de faire en sorte que les vaccins arrivent vraiment et qu'il n'y ait pas de retard, et ensuite de vacciner en masse les gens.
Et pourtant, souvenez-vous, Olivier Véran, le 4 janvier dernier, en visite à l'Hôtel-Dieu, c'était pas il y a un siècle, c'était il y a 2 mois, il disait ceci.
Je ne suis pas du tout certain que ça doit prendre la forme de grands stades dans lesquels viendraient faire la queue des milliers de personnes en plein hiver. Je crois vraiment à la proximité et je crois au savoir-faire des professionnels de santé sur lesquels nous pouvons nous appuyer.
Charles Villeneuve, changement de pied rapide, par souci d'efficacité.
Mais c'est normal, parce qu'au sein même du gouvernement, il y a deux lignes. Il y a la ligne du chef de l'État, il y a la ligne de la bureaucratie médicale à travers le ministère de la Santé et toutes ses filiales, les agences régionales de la santé, etc. Moi, je les ai vus travailler dans le sud, à Mandelieu, à Naples et à Cannes. C'est un désastre. Et alors, il changer de braquet, d'accord, pour avoir les doses. Et quand vous écoutez Thierry Breton, hier, au journal
de TF1.
Oui. Évidemment, il annonce au mois d'avril 12 700 000, au mois de mai 17 600 000 et 26 millions, je crois, 600 000 au mois de juin. Évidemment, s'il y a toutes ces doses, bien sûr qu'il faut changer de braquet.
Oui.
Mais il faudra changer de braquet pas seulement avec comment ils appellent ça, pas des vaccinodromes, ils appellent ça des espaces de...
Des centres géants, enfin, des centres, je pense oui. que vaccinodrome, on va pouvoir voilà, utiliser
on a l'impression d'avoir des centres
que...
aérés, vous savez, quand, comme on envoyait les
Alors,
enfants.
Il y a une raison quand même, c'est que le gouvernement ne voulait pas en entendre parler de ces vaccinodrones, car dans l'imaginaire collectif, il y avait le fiasco de la grippe H1N1, oui. où on avait ouvert ce type de méga-centres et ils étaient restés évidemment dramatiquement vides. Alors, on n'est pas encore au niveau des États-Unis, hein, Edouard Le Cerf, parce qu'aux États-Unis, des centres comme ça, ben, il y en a pas loin d'une cinquantaine. Et là-bas, on vaccine 10 000 personnes par centre. Donc on n'y est pas encore, mais on en prend le chemin.
Ben, je pense qu'il y a deux éléments qui expliquent la décision du gouvernement. Il y a un premier élément qui est d'abord que les vaccins vont arriver. Donc avoir des vaccinodromes sans vaccin, c'est ouvrir un stade sans spectateurs oui. et sans joueurs. Donc là,
mais il faut être prêt. Parce que quand les vaccins arrivent, si les vaccinodrones et l'intendance ne suivent pas, comme ça a été le cas au début de la vaccination, nouvelle polémique, nouveau retard à l'allumage.
Non mais c'est vrai. C'est vrai que la difficulté pour le gouvernement, c'est d'expliquer qu'il prend de nouvelles décisions alors qu'en fait, il s'adapte à une forme de pénurie. Donc on lui reproche soit le fait d'avoir mal organisé l'arrivée des vaccins dans la masse de vaccins qui sont attendus, soit ensuite qu'il s'adapte à cette existence de vaccins. Donc dans tous les cas... Il est sanctionné, dans tous les cas, il est soupçonné effectivement de courir après oui. quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il court après? Parce qu'on revient à la faute initiale. Pourquoi est-ce que vous courez après quelque chose qui n'arrive pas? Parce que vous n'avez pas su l'organiser, parce que vous n'avez pas été suffisamment préparé. Donc dans tous les cas, que vous annonciez quelque chose qui peut améliorer
mais c'est
les
vrai,
choses.
C'est vrai que la vaccination de masse, ça se prépare. La logistique, Exactement. Ça se prépare. Est-ce que les Français, ils sont favorables à cette idée de vacciner massivement dans ces grands centres type vaccinodrome?
Alors, je pense que sur l'ensemble de ce qui est en train de se passer en ce moment, il faut peut-être que de temps en temps, on arrête de parler des Français. Parce que ce que l'on voit, c'est que vraisemblablement, les Français sont en train de se constituer en groupes un peu différents dans leurs attitudes à l'égard de la vaccination. Je pense que la majorité des Français, si on leur dit « ça peut permettre de vacciner plus largement et vous-même, vous pourriez plus être plus rapidement vacciné », ils diront « oui, bien sûr
oui. ».
Mais on n'a plus les Français en général. Vous voyez bien, les études d'opinion montrent les Français un peu partagés, un peu dans le doute. On n'a plus une seule opinion à l'égard de ce sujet-là. Et c'est d'ailleurs un des dangers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, en fonction des atermoiements, des changements de pied du gouvernement, de ce qu'il peut faire, des vaccins qui arrivent, eh bien on a une population française, et même dans leurs attitudes à l'égard du confinement, je ne sais pas si c'est en confinement aujourd'hui, mais eh bien il y a des éléments différents. Oui. Aujourd'hui, on a une forme de petite rupture à l'intérieur de la société française.
Bon, Charles Villeneuve, l'armée au secours de la vaccination, ça vous plaît, ça j'imagine?
Départ.
Non, je vous taquine parce que d'abord,
non, mais
je sais
j'ai
vous
même
lire,
posé la question
vous avec
Bruno Le Maire.
Et puis vous m'aviez dit, il y a déjà plusieurs mois.
De toute façon, auprès de Comlock, le sous-chef d'état-major opérationnel, vous avez toute une équipe de logisticiens qui vous envoie 5000 hommes ou je ne sais combien sur le plan de l'alimentation, du matériel, oui. des armes en l'espace de 3-4 jours.
Ils savent faire.
Mais c'est leur métier. C'est leur métier de toute façon. Tous les grands généraux, que ce soit les Américains pour le débarquement de Normandie, que ce soit Lazare Carnot qui a organisé l'armée dont on parle beaucoup en ce moment, la grande armée de Napoléon, ce sont des logisticiens. Oui. Ce oui. sont d'abord des logisticiens. Et d'ailleurs, tout à l'heure, M. Le Cerf parlait du fait qu'il y avait une archipélisation en réalité des Français, que tout ça n'était pas homogène. Mais il faut savoir surtout que les Français, je les trouve, moi, extrêmement disciplinés, beaucoup plus qu'on ne le raconte.
De moins en moins, mais on va
s'adaptent.
En parler.
Non, je ne suis pas d'accord
bon,
avec
on en
ça.
Parlera,
je
suis pas d'accord. On en parlera, Charles. Nathalie
Moret,
vous réagirez.
Qu'ils sont souples, les Français.
Vous réagirez dans quelques secondes. Et puis, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez regardé les images ce week-end, mais en Europe, la contestation reprend de plus belle. Hein. Hier, il y a eu des heures en Angleterre, il y a eu des heures aussi à Berlin, avec 20 000 personnes dans les rues. Voilà, le mouvement de colère est en train de monter en Europe. 18h39, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. 18h40, le débat des grandes voix du lundi suite avec toujours Charles Villeneuve, Édouard Le Cerf, directeur général adjoint du groupe BVA et Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe de presse régional et Bras Presse. Je voudrais vous faire réagir maintenant à l'étonnante déclaration hier soir du commissaire européen devenu Monsieur Vaccin de l'Europe, il s'agit de Thierry Breton. Cela concerne l'arrivée du vaccin russe Sputnik, alors que les retards de livraison, vous le savez, se multiplient en Europe. Eh bien lui, Thierry Breton, il affirme que c'est inutile de faire appel au vaccin russe. Il était donc l'invité du 20h de TF1 hier soir.
Non seulement nous n'avons pas besoin de Sputnik V, mais je dirais pas d'autres vaccins non plus. Sputnik V, vous savez, les Russes sont un mal fou à le fabriquer. Bah, il faudra sans doute les aider, on verra ça au second semestre. S'il faut leur fournir une ou deux usines pour le fabriquer, pourquoi pas, mais pour l'instant, priorité aux Européens.
Nathalie Moret, c'est raisonnable ça de dire sur un plateau de télévision, une heure de grande écoute, le vaccin russe, on n'en a pas besoin, nous, les Européens.
C'est de la politique.
Oui. C'est de la politique. On a l'Union européenne qui critique la Russie sur son positionnement, qui disent en clair, ouais, vous avez été les premiers à annoncer que vous aviez un vaccin, puis finalement, ça n'a pas été le premier à arriver, puis, etc. Bon. Et puis, il faut savoir, ça, c'est de la politique. Ensuite, il y a deux problèmes sur le Spoutnik. C'est un, qu'il n'est pas validé, quand même, pour l'instant. Donc, tant qu'il n'est pas validé, voilà.
Mais c'est en cours.
C'est en cours, mais ensuite, il y a des problèmes. C'est vrai qu'il n'est pas validé. Il y a des problèmes d'acheminement et de livraison. C'est surtout ça.
Mais avec l'AstraZeneca aussi, hein, on pourrait dire que.
Après, de toute façon, à terme, il va falloir vacciner toute l'ensemble de la population mondiale et je ne vois pas comment on peut faire l'économie d'un vaccin.
Je vous donne la parole. Non. Simplement une précision pour les gens qui nous écoutent. Le Sputnik V, dont parle Thierry Breton et dont on parle ce soir, avait initialement, vous vous souvenez, été accueilli avec beaucoup de scepticisme de la part des dirigeants européens. Et puis, sa fiabilité a été validée par la revue scientifique The Lancet, qui fait référence. Et il est efficace, ce vaccin, à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19. Non, ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que l'Europe ne parle pas d'une seule voix. Angela Merkel, par exemple, a réagi et elle dit, elle, être prête à en commander.
Bon, mais écoutez, si elle est prête à en commander, Charles lorsque... Lorsque l'organisme européen du médicament va donner le feu vert, elle enverra un texto au président et qui s'empressera d'en commander aussi.
La suppression de la vaccination AstraZeneca, vous voulez dire.
N'oublions pas que les plus réticents à l'égard de ce vaccin ont d'abord été les Russes eux-mêmes, le peuple russe. Puisque ce qu'a décidé dernièrement Poutine d'aller se faire vacciner pour montrer l'exemple, c'est que l'un des sondages indépendants montrait que 58% de Russes ne croyaient pas à la fiabilité. Et en tout cas, si vous voulez, l'empressement des fonctionnaires de l'État à être enthousiastes par rapport à Sputnik V a refroidi justement cette opinion publique. Et c'est la raison pour laquelle ça traîne. Alors là-dessus, je ne sais pas si ça a influencé Thierry Breton, mais en tout cas, manifestement, c'est vrai que moi, j'ai moi-même été surpris par sa réponse très claire, très nette définitive, et assez sèche.
Très définitive, Édouard Le Cerf. C'est surprenant quand même de la part d'un commissaire européen, Monsieur Vaccin Europe. Et encore une fois, comme dans le même temps, Angela Merkel, prudente habituellement, dit ben, « Moi, je préférerais une commande de l'Union européenne, mais si celle-ci n'intervenait pas, alors l'Allemagne devrait agir pour elle-même, et c'est ce que nous ferions. »
C'est vrai que là aussi, on était en de la politique, puisqu'elle était en train d'expliquer que l'Union européenne avait quand même relativement bien organisé les choses, même s'il se défendait. Donc, dire qu'en même temps, on va aller chercher tout ce que l'on peut pour vacciner au maximum et pour compenser quelque chose qu'on aurait mal fait, c'était compliqué. Après, il se basait aussi, on parlait d'études d'opinion. Il y a quelques mois ou quelques semaines, lorsqu'on interrogeait les Français sur la perception des différents types de vaccins, c'est vrai qu'il y avait une réticence du fait de l'origine des vaccins. Oui. Et on n'avait pas encore toutes les études qui montraient la validité, a priori, du Sputnik V. Mais c'est vrai que un vaccin venant d'Union européenne était très bien accueilli. Et donc, on essayait de s'appuyer là-dessus pour se dire, bah tiens, on voit que les Français sont réticents à la vaccination. Si on leur propose un vaccin européen, et on va essayer de mettre tout l'effort là-dessus, ça ira mieux, que si on leur propose un vaccin russe, ou à l'époque même un vaccin chinois.
Non, mais on est vraiment dans la diplomatie du vaccin. Là, il n'y a pas d'autre explication à cette déclaration de la part de Thierry Breton. D'autant que les Hongrois et les Tchèques ont déjà commandé du vaccin Sputnik V et ont déjà visiblement commencé à l'administrer. Bon, ça c'est un autre sujet, sans l'accord de l'Agence européenne des médicaments, Nathalie Morel.
Et on voit bien que, quand je dis que c'est un sujet politique, il n'a pas fini d'être politique. Ce matin, Marine Le Pen a répondu à une question sur le sujet lors d'une conférence de presse qu'elle tenait et elle a dit « Moi, déjà, je ne comprends pas pourquoi les vaccins doivent être validés au niveau européen. » Nous, en France, on a des instances qui pourraient tout à fait les valider. Donc, on voit bien que là, c'est une espèce de brèche dans laquelle elle n'est pas la seule à s'enfoncer pour dire qu'effectivement, pourquoi pas, vous parliez d'Angela Merkel, qui, elle, est prête à en commander. On voit bien que ça va devenir politique, et c'est déjà politique, je veux dire, mais ça va devenir polémique.
Bon, vous, Charles Villeneuve, du Sputnik V qui coule dans vos veines, vous y voyez un inconvénient, vous y êtes opposé, favorable?
Non, mais... c'est vrai que sur le plan de la médecine générale, la réputation de la recherche russe n'est pas exceptionnelle. Elle l'est sur le plan spatial, sur le plan aéronautique, sur le plan des missiles sol-sol ou solaires et des pièces d'artillerie, mais elle est moins, de toute façon, évidente sur le plan de la médecine générale. Oui. Et ça ressort d'ailleurs dans les dialogues que vous pouvez avoir avec les Russes, notamment qui sont ici, auprès de l'ambassade, etc. Même ceux qui sont attachés de l'ambassade, de toute façon, n'étaient pas formels. Si vous voulez, ils n'avaient pas adopté un ton de propagande. C'est assez intéressant, d'ailleurs.
Non, mais c'est vrai que cette déclaration de Thierry Breton, imaginez dans 2 mois, le vaccin est validé, on souhaite en commander pour l'Union européenne, ça sera compliqué de rétro-pédaler avec une telle déclaration sur le plateau du 20h de TF1. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. 18h47, on marque une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants avec toujours nos débatteurs et on parlera de ces mouvements, justement, de désobéissance civile qui commencent à se multiplier un peu partout en France. À tout de suite. 18h49, la suite du débat des grandes voix du lundi avec toujours Charles Villeneuve, Édouard Le Cerf du groupe BVA et Nathalie Moret du groupe de presse régionale et Bras Presse. Alors on parle maintenant de ces mouvements de désobéissance civile qui, c'est vrai, se multiplient un peu partout en France. Alors il y a eu évidemment ce carnaval interdit à Marseille qui a rassemblé 6500 personnes, le plus souvent sans masque. Et puis aussi cette manifestation du côté d'Annecy avec plus de 1000 personnes contre le port du masque notamment. Et on voit que c'est le cas, je l'évoquais tout à l'heure, un peu partout en Europe. 20 000 personnes tout de même en Allemagne ce week-end. 20 000 personnes. Et hier à Bristol, en Grande-Bretagne, ça a fini en heurts très très violents entre la police et les manifestants. C'est un mouvement de fond pour vous, Charles Villeneuve, susceptible de prendre de l'ampleur ou ça fait partie un peu de la contestation classique du moment ?
Ben, moi, je trouve que tous ces, si vous voulez, ces attroupements, ces rassemblements sont en arrière-plan de toutes les initiatives de l'exécutif, presque systématiquement. Le carnaval de Marseille, ça ne m'étonne pas, d'abord parce qu'il est prévu chaque année. Évidemment, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on casse derrière. Mais c'est Marseille, ça aussi. Il faut connaître un peu Marseille pour savoir que ce genre de phénomène n'est pas évident, classique, quotidien, mais que ça arrive. Mais ce qui m'étonne plus, c'est le rassemblement justement en Savoie, c'est ça ?
À Annecy, oui, 1000 Annecy, personnes. Oui. Et écoutez ce que disait, par exemple, hier sur les antennes d'une chaîne info, Karine Lacombe, vous savez, l'infectiologue chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, qui est plutôt quelqu'un de raisonnable, de mesuré dans ses propos, eh bien, elle disait ceci.
Ce que ça reflète, c'est le ras-le-bol de tout le monde. Le ras-le-bol de tout le monde face à une situation où on a fêté cette semaine le 1 an du premier confinement, où on a le sentiment de ne pas en voir la fin. Ce qui veut dire qu'on doit encore faire preuve de plus de pédagogie, puis surtout passer à la vitesse supérieure en termes de vaccination.
Voilà, on en revient toujours à la même chose, hein, accélérer sur la vaccination. C'est vrai que c'est un propos revient beaucoup dans la bouche des soignants, dans la bouche des médecins, dans la bouche des épidémiologistes. Édouard Le Cerf, on sent que dans l'opinion publique, il y a un ras-le-bol qui est en train de s'installer.
Il y a un ras-le-bol, c'est sûr.
Il est là depuis longtemps, mais là, il commence à se manifester de façon assez visible.
Pendant presque 9 mois, d'ailleurs, avec Europe 1, pendant toute la période du premier confinement, chaque semaine, on mesurait le moral des Français. On l'a remesuré dernièrement, la semaine dernière, et on est au niveau le plus bas. Donc, naturellement, on voit bien qu'il y a un impact...
Y compris d'ailleurs sur l'acceptation des contraintes sanitaires.
Alors l'acceptation, on est toujours en train de... Là aussi, ça n'est pas tous les Français. Je pense que là, il y a des minorités agissantes, très visibles, qui sont là. Mais entre la résignation et la révolte, on voit bien qu'aujourd'hui, le cœur de certains Français peut balancer. Et c'est d'autant plus compliqué de savoir comment se positionner qu'on est, on en parlait tout à l'heure, dans un relatif flou. C'est-à-dire que vous mettre en opposition par rapport à quelque chose qui est très clair... Eh bien, c'est quelque chose qui est une prise de position. Aujourd'hui, on peut presque spontanément se mettre en opposition à quelque chose sans vraiment l'avoir voulu. Alors là, on a des éléments, des gens qui manifestent, mais pour chaque individu, on peut se poser la question à chaque moment, est-ce que je suis en train de me mettre en décalage ?
Ouais. Nathalie Moret, il y a quand même quelque chose qui pourrait inquiéter l'exécutif. Si demain, ces mouvements de contestation prennent de l'ampleur, qu'est-ce qu'on fait ?
Ça inquiète l'exécutif, c'est évident. Ce qui s'est passé à Annecy, vous l'avez dit, 1000 personnes, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Parce qu'effectivement, Marseille, on peut se dire, bon voilà, c'est une espèce de cocotte-minute qui explose et on peut tous comprendre.
Parce qu'il y a ça, c'est-à-dire ceux qui manifestent vraiment contre les mesures sanitaires, et puis aussi la mobilisation sociale. Brest, par exemple, samedi, plus de 4000 personnes dans les rues de Brest. D'ailleurs, là aussi, on peut se questionner sur les mesures sanitaires, hein, parce que la moitié des gens ne portaient pas de masque, on était collés serrés. Alors, ce n'est pas le carnaval de Marseille, mais en termes d'impact de circulation du virus, on n'est quand même pas loin. Parenthèse fermée. Et là, ça rassemblait des gilets jaunes, des manifestations contre la loi sécurité globale, et puis aussi des manifestants du monde de la culture. Donc on voit qu'il y a des colères sociales qui sont en train de s'agrémenter les unes aux autres.
Le virus, il a un petit peu anesthésié la société. Pendant plusieurs mois, on s'est retrouvés comme ça, comme en apnée. Et aujourd'hui, on a appris à vivre et à respirer, pour reprendre la métaphore de l'apnée, avec le virus. Et donc, ça n'a pas éteint les colères. Je veux dire, la colère sociale des gilets jaunes, la colère de toute ce qu'on a appelé la première ligne, elle est toujours là. Oui. La colère des soignants, elle est là. Et elle ne demande qu'à s'exprimer.
Quelque chose que vous avez mesuré, ça, Édouard Le Cerf ?
Moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est presque la colère à bas bruit. C'est-à-dire qu'il y a des expressions là qui sont extrêmement fortes, visibles, mais ce qui est le plus embêtant sans doute pour le gouvernement, ce serait cette colère à bas bruit, c'est-à-dire cette capacité à se mettre en décalage par rapport à ce qu'on leur demande de faire, à ne pas l'exprimer très ouvertement, mais finalement avoir des comportements qui ne sont pas alignés par rapport à ce qu'on leur recommande de faire, les recommandations sanitaires, et ça, sans l'exprimer ouvertement, eh bien ça aurait encore plus de conséquences, parce que ça peut concerner beaucoup plus de monde au niveau sanitaire dans les mois, et dans les jours et les semaines qui viennent.
Charles Villeneuve.
Il faut intégrer quand même, si vous voulez, qui est caractéristique des tempéraments français, c'est que très souvent, c'est une manifestation contre toute forme d'autorité institutionnelle. Et je trouve quand même que depuis ce que les Français ont subi depuis un peu plus d'un an maintenant, je les trouve quand même relativement calmes.
Oui, et résilients.
Présent.
Et sacrément résilients. Oui.
Ouais. Et encore faut-il qu'on explique les choses, parce qu'on accepte ce que l'on comprend. Et les différentes mesures qui ont été annoncées la semaine dernière sont beaucoup plus difficiles à expliquer, puisqu'elles ne sont pas sur tout le territoire, qu'il y a des mesures qui sont ciblées. Et donc, du coup, et puis aujourd'hui, qui peut se déplacer ? Est-ce qu'on peut aller en dehors de son département ? Pas de son département ? C'est encore des choses qui sont très, très floues. Et nous, des questions qu'on a souvent sur nos sites Internet. Donc, faites attention, parce qu'effectivement, ce qui n'est pas compris est...
peut susciter la colère.
Merci,
et la contestation. Je vous en prie. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du lundi.
Moi, je pense qu'il faut aller.
Julien Bugier.
18h55, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Le journal de 19h et puis le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on se penchera sur le capitalisme. La course au rendement et au profit est-elle compatible avec une vision sociale et éthique de l'entreprise ? On parlera évidemment du cas Danone avec son PDG qui a été remercié il y a quelques jours. A tout de suite.